Bonjour, je suis Nicolas Dufresne et vous écoutez La Fourmi dans la coquille, le podcast qui ouvre des portes. Comment la lumière physique devient-elle couleur dans notre conscience ? La fourmi dans la coquille, saison 2, épisode 5, de la lumière à la couleur. Avant de commencer cet épisode, j'aimerais avoir un mot à propos de ma poule Rosala, dont j'ai parlé du plumage noir iridescent la semaine dernière. Depuis que j'ai enregistré ce dernier épisode, malheureusement, une buse a réussi à s'introduire dans l'enclos des poules et Rosala a été mangée par la buse. Ça nous a rendu très tristes, y compris les autres poules, Agnès, Doda, Charlotte et Joséphine, qui ont un petit peu de mal à s'en remettre. Mais on reste positif, c'est la nature, ça arrive que de temps en temps les prédateurs arrivent à avaler leur proie. Et c'est de la nature qu'on va parler aujourd'hui sur des notes un peu moins tristes, je vous rassure, où nous allons donc voir comment la lumière devient couleur dans l'esprit des humains et de pas mal d'animaux. La vue est un sens majeur pour la survie et la vie des humains, au point qu'on a tendance à croire qu'il en est de même chez tous les animaux. Pourtant, ça va pas de soi que la vie implique la vue, et les mécanismes nécessaires à la captation de la lumière et des formes, des mouvements, des couleurs sont en fait le résultat d'une évolution complexe. D'autant plus que le lien entre les propriétés physiques de la lumière et les qualia, c'est-à-dire les phénomènes conscients, est assez difficile à établir. Si la longueur d'onde, c'est une propriété objective qu'on peut supposer exister même sans conscience pour la percevoir, un qual, lui, est subjectif et n'existe que dans la conscience qui en fait l'expérience. C'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. Nous allons découvrir comment la lumière physique devient phénomène conscient. Pour que l'évolution naturelle amène à la vision de la lumière et des couleurs, il faut commencer par développer un moyen au niveau moléculaire de réagir à la lumière, c'est-à-dire de provoquer un changement à l'échelle des molécules qui constituent les cellules, qui puisse servir de signal lorsque l'œil capte un photon. Il y a justement les opsines, des longues protéines qui sont extrêmement répandues dans le vivant, qui sont capables de s'associer à de plus petites molécules très spécifiques, qu'on va appeler les chromophores et qui les enserrent. Et ces chromophores qui sont enserrés dans des opsines, ce sont justement les molécules qui donnent leur couleur aux nombreux colorants organiques, tout simplement parce qu'ils absorbent des photons de longueur d'onde très spécifiques. Par exemple, le carotène est un de ces chromophores, on le connaît bien, c'est celui qui donne la couleur des carottes et des feuilles mortes. Parmi ces chromophores, il y en a certains qui peuvent même changer de forme lorsqu'ils absorbent un photon, et ils forcent dans ce cas l'opsine qui les contient à aussi changer de forme, et ça provoque une suite de réactions chimiques au sein des cellules qui va aboutir au déplacement d'électrons, donc créer des charges électriques, et donc ce qui va finalement former un courant électrique. Ces opsines qui contiennent ces chromophores spécifiques et qui sont situées sur la membrane des cellules deviennent en fait les constituants moléculaires fondamentaux de la vision chez tous les êtres vivants qui en sont dotés. Tous les êtres vivants utilisent ce mécanisme que je viens de décrire. Ils possèdent sur la membrane des cellules qui leur servent à voir ces opsines qui contiennent des chromophores spécifiques. Il existe des milliers de variétés différentes de systèmes chez tous les animaux, mais en fait, toutes ces variétés semblent n'avoir qu'un seul et même ancêtre dans la longue histoire de l'évolution des espèces. En partant de ces opsines, l'évolution des yeux, tels que ceux de l'être humain par exemple, passe en fait par quatre stades. Au tout premier stade, les opsines sont simplement associées à des cellules et forment les tout premiers photorécepteurs du vivant qui servent qu'à détecter la présence de lumière, par exemple pour s'assurer que son corps est parfaitement caché ou détecter l'ombre d'une proie. Ces premiers photorécepteurs peuvent aussi déjà détecter différentes longueurs d'onde dans les photons qui sont absorbés, et ce sont des cellules simples comme celle-ci qui parsèment par exemple la peau des pieuvres et des seiches, ce qui leur permet de changer de couleur pour se camoufler dans l'environnement en contrôlant en retour, les pigments de la peau, tout comme les caméléons, contrôlent des nanocristaux dans leur épiderme. Ces changements de couleur des caméléons, des poulpes, des pieuvres n'ont d'ailleurs pas uniquement pour but de se camoufler, mais c'est aussi un moyen de communication. Dans ce cas, ils sont plus dépendants de photorécepteurs sur la peau, mais bien de l'évolution des yeux et de la vision. En fait, rien n'est jamais simple dans la nature. Chez les caméléons, on pense d'ailleurs que les changements de couleur sont d'abord apparus comme un moyen de communication avant de servir ensuite de moyen de camouflage. Dans ce cas, les couleurs sombres marquent plutôt la couleur et l'agressivité, avec des rayures sur les flancs et des signaux qui changent sur la face du caméléon. Des couleurs claires, au contraire, et variées sont utilisées par les mâles pour attirer les femelles, tandis que les couleurs très très vives peuvent être utilisées en moyen de défense pour faire peur aux prédateurs. Chez certaines espèces de caméléons, les changements de couleur servent peut-être aussi à la régulation thermique du corps. Et certaines espèces, comme le Bradypodion taenia bronchum, une espèce de caméléon endémique d'Afrique du Sud, ont ensuite développé le camouflage jusqu'à en avoir une maîtrise vraiment exceptionnelle. Ils sont capables de se fondre totalement avec la branche sur laquelle ils sont accrochés. Les caméléons qu'on connaît bien, ils sont déjà précisément décrits dans l'Histoire des animaux d'Aristote, et puis même un peu plus tard, Théophraste, un autre philosophe grec élève d'Aristote, soutiendra que ces changements de couleur du caméléon proviennent de l'air qui remplit son corps. En effet, les poumons du caméléon occupent presque tout l'abdomen, et c'est ce qui poussera même par la suite Pline l'Ancien et Ovide dans les Métamorphoses à soutenir qu'il se nourrit que d'air. Faudra attendre la Renaissance pour que de véritables descriptions scientifiques de l'animal soient faites. Au premier stade, où nous avons laissé les photorécepteurs, si donc déjà certaines couleurs peuvent être détectées permettant aux pieuvres et aux poulpes de changer et d'adapter la couleur de leur peau, grâce à des opsines spécialisées dans certaines longueurs d'onde, on peut pas encore parler de vision. Non, les pieuvres ne voient pas avec la peau, ce serait faux de le dire. Parce que pour la vision, il faut au minimum pouvoir détecter la provenance, au moins approximativement, de la lumière, c'est-à-dire la direction des rayons. Et ça, c'est possible au deuxième stade de l'évolution, grâce à l'inclusion soit de pigments sombres, soit d'obstacles sur les photorécepteurs, qui permettent de réagir uniquement aux rayons qui viennent d'une direction plus ou moins précise. Alors c'est un embryon de vision très rudimentaire, et c'est qu'au troisième stade de l'évolution que les photorécepteurs sont regroupés pour produire de véritables images du monde extérieur. Et là, on peut vraiment parler de vision, bien que ce soit encore un peu flou et granuleux, parce qu'il faut ajouter un système optique qui permet de focaliser la lumière pour former une image nette, un peu comme les objectifs sur un appareil photo, les lentilles des lunettes astronomiques ou les miroirs des télescopes qui focalisent la lumière sur leur capteur. Prenez une photo avec un appareil sans objectif, ou sans faire la mise au point, vous n'obtiendrez qu'un grand flou lumineux, comme le décrit Han Solo dans Le Retour du Jedi, dont les yeux souffrent probablement de difficultés à faire le point après sa congélation carbonique. En faisant le point, en focalisant la lumière sur la rétine étant la partie de l'œil qui est tapissée de photorécepteurs, c'est là que vous obtenez une image de meilleure définition, nette, et la vision ouvre de nouvelles portes évolutives à partir de là. Bien que ça prenne un certain temps, la transmission de la lumière et sa détection par les opsines, puis les réactions chimiques dans les photorécepteurs, sont bien plus rapides que le transport via l'air ou l'eau et la détection des composés moléculaires par l'odorat ou le goût, par exemple. La vision, au contraire du toucher, elle permet aussi de se faire une idée du monde à distance. Et cette nouvelle vitesse, associée à cette distance de détection, permet aux prédateurs et aux proies de se repérer plus facilement. On pense qu'elle donne à leur naissance aux courses-poursuites. Parce que, pour faire une bonne course-poursuite, il faut un sens très rapide, et c'est là que la vision entre en jeu. Du coup, grâce à la vision, les animaux se mettent à grandir, ils sont plus rapides. Et l'apparition de la vision, on pense qu'elle peut ainsi être à l'origine de toutes sortes d'autres évolutions dans le monde animal. Il est bien possible que ce soit exactement ce qui s'est passé il y a environ 530 millions d'années pendant ce qu'on a appelé l'explosion cambrienne, c'est-à-dire une grande diversification du vivant, pendant laquelle les structures les plus essentielles des organismes vivants aujourd'hui sont apparues. Je pense aux squelettes, aux intestins, les mâchoires, les branchies et donc les yeux. C'est le développement de la vision précise qui serait une étincelle parmi d'autres qui a initié cette explosion de cette grande diversification du vivant. Mais une vision nette et précise ne signifie pas nécessairement qu'on voit les couleurs. En effet, pour commencer à distinguer les couleurs, il faut pouvoir distinguer les différentes longueurs d'onde. Pour le dire autrement, il faut posséder différents types d'opsines pour réagir à différentes zones du spectre lumineux, et on pense que cette évolution a encore pris quelques dizaines de millions d'années après l'apparition des yeux, et encore aujourd'hui, les animaux monochromates, ceux qui ne distinguent pas les couleurs mais que les intensités, sont encore très nombreux. Il y a, par exemple, les tatous, les paresseux, les ratons laveurs, les requins, les baleines, pour qui l'océan n'est pas bleu. Contrairement à ce qu'on croit, les chats, les chiens, les mammifères ne sont pas monochromates, ils ne voient pas en noir et blanc, mais on reviendra là-dessus un petit peu plus tard. Étonnamment, l'immense majorité des céphalopodes, dont font partie les pieuvres et les seiches dont on a parlé, sont aussi monochromates et n'ont probablement donc aucune conscience de leur propre changement de couleur de peau dont on a parlé. Chez les pieuvres et les seiches, au contraire des caméléons, ces changements de couleur ne peuvent donc pas servir de signal, de moyen de communication. Mais quel est donc d'ailleurs l'intérêt de développer la vision des couleurs ? Dans les temps qui ont suivi l'explosion cambrienne et l'évolution de la vision, une grande partie des animaux vivaient dans une eau peu profonde. Ils subissaient donc le miroitement du soleil sur la surface. Imaginez un peu alors comment ces rapides et intenses variations de la lumière dans votre environnement peuvent nuire à votre vision si vous n'avez pas la couleur, si vous voyez uniquement en noir et blanc. Dans cet univers où la luminosité est très changeante, distinguer les couleurs devient donc un atout, parce que à la lumière ou dans l'ombre, du vert, ça reste du vert. Et en tout cas, il reste bien distinct du rouge, par exemple. C'est une explication possible sur l'évolution de la vision des couleurs qui aurait eu lieu il y a entre 500 et 400 millions d'années. Ce ne serait que par la suite, bien longtemps après que la vision des couleurs se soit développée, que l'usage de la couleur soit apparu. Je pense par exemple aux fruits et aux graines qui seraient les premiers à avoir arboré une couleur distinctive qui porte alors un message pour les animaux qui le regardent qui dit « Mangez-moi, 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 c'est le chant du silo qui suffit, qui joue avec les âmes et ouvre les volets de la perception. » Ces fruits choisissent une couleur qui tranche avec l'environnement, rouge par exemple pour les fraises qui sont entourées de feuilles vertes. Cette évolution-là, des fruits, des plantes qui prennent de la couleur, ne se serait faite que 100 à 200 millions d'années après le développement de la vision des couleurs, c'est-à-dire il y a environ 300 millions d'années. Les fleurs ont immédiatement suivi les fruits, il y a entre 250 et 140 millions d'années, puis les premiers animaux aussi ont commencé à se colorer il y a 130 millions d'années pour effrayer ou surprendre leurs prédateurs. On a retrouvé un cafard datant de cette époque, piégé dans l'ambre, dont on sait qu'il était coloré, bien qu'on ne sache pas de quelle couleur exactement. Si on fait des analyses phylogénétiques, on se rend compte que les premières chenilles colorées seraient apparues il y a environ 105 millions d'années. Quoi qu'il en soit, c'est bien les dinosaures qui ont vu le développement de la couleur dans le monde biologique, pour autant qu'ils n'aient pas été monochromates et qu'ils aient développé eux-mêmes la vision des couleurs. À la disparition des dinosaures, en tout cas, il y a 65 millions d'années, ou de la majorité des dinosaures, le monde était probablement déjà aussi coloré qu'il ne l'est aujourd'hui. Et ce sont les dinosaures qui ont survécu, les oiseaux, qui font partie des animaux à la fois les plus colorés et ceux dont la vision des couleurs est probablement la meilleure dans tout le monde animal. Depuis 300 millions d'années, donc, l'usage et la vision des couleurs ont coévolué en colorant le monde d'une infinité de nuances qui sont vues d'une infinité de manière différente par tous les animaux qui y vivent. La manière de voir influence le développement des couleurs, et le développement des couleurs influence la manière de voir. Les fruits ont développé la couleur rouge conjointement avec la vision du rouge chez les primates, ce qui permet de les distinguer sur le fond vert des feuilles. Sous l'océan, par contre, où les longueurs d'onde rouges sont trop facilement filtrées, c'est pas utile de développer la vision du rouge, et cette couleur n'est que peu utilisée. Il y a peu de rouge sous l'océan. De la même manière, les fleurs qu'on estime déjà si colorées, vues avec nos yeux humains, le sont en fait encore plus aux yeux des abeilles et des autres pollinisateurs. En fait, à travers les interactions, la coévolution à la fois des couleurs et de la vision, le sens de la vision n'est pas qu'un simple moyen de réception passif, mais c'est en fait aussi comme un pinceau qui pigmente activement notre univers. Par le simple fait de voir et regarder, nous les animaux, nous sommes acteurs, nous sommes les peintres de notre écosystème, et cette vaste gamme de différentes visions des couleurs correspond à l'immense variété des yeux des animaux qui, bien que fonctionnant tous sur le même principe hérité de nos lointains ancêtres, varient énormément dans leur configuration. La vision des couleurs commence donc sur la rétine, c'est-à-dire la surface sur laquelle sont assemblés les photorécepteurs qui se situent au fond de l'œil chez les mammifères. Les opsines dont on a parlé, qui sont situées sur ces photorécepteurs, sont des molécules qui réagissent en fait à l'excitation d'un seul photon à la fois. Lorsqu'on les soumet à un rayon lumineux, qui est en fait un flot de nombreux photons, chaque photon, pris individuellement, a une chance, plus ou moins élevée, de faire réagir l'opsine. C'est là un des effets aléatoires au cœur de la physique quantique. Cette probabilité de faire réagir l'opsine augmente autour d'une gamme de longueurs d'onde précise qui est propre à chaque opsine. Par exemple, l'opsine spécifique qui permet la vision du rouge chez l'être humain, elle a plus de chances de réagir aux photons autour de 564 nanomètres, mais elle peut aussi réagir aux photons qui vont d'environ 500 nanomètres jusqu'à un peu plus de 600 nanomètres. Et comme ça, n'importe quel photon dans cette gamme de 500 à 600 nanomètres peut activer le photorécepteur qui contient cette opsine spécifique, mais la valeur précise de la longueur d'onde, elle est perdue. L'opsine, soit elle réagit pas, mais l'œil ne peut pas savoir quelle longueur d'onde a fait réagir exactement du coup. La seule information qui est disponible, c'est le fait qu'un photon a été absorbé par une opsine précise. Ce fonctionnement, il fait qu'un seul type d'opsine, un seul type de photorécepteur, ne permet pas la vision des couleurs, seulement la vision monochromatique. C'est-à-dire qu'il permet uniquement de voir l'intensité de la lumière dans un spectre précis qui correspond à la gamme de longueur d'onde spécifique à l'opsine. Il faut en fait au minimum deux types d'opsines qui réagissent à deux gammes de longueur d'onde un peu différentes pour commencer à distinguer les couleurs en comparant les signaux entre les deux types d'opsines. Cette comparaison implique donc aussi la présence d'un système nerveux derrière la rétine, c'est-à-dire un ensemble de neurones qui vont traiter les signaux et effectuer les comparaisons des deux signaux. On y reviendra un peu plus tard. On va commencer d'abord par se concentrer un peu sur ces photorécepteurs et leurs opsines, parce que la vision des couleurs dépend donc d'abord du nombre d'opsines différentes au sein de la rétine, qui doit être au minimum de 2, chaque opsine étant capable d'absorber majoritairement une gamme de longueur d'onde précise. Il y a en fait deux grandes catégories d'opsines qui nous intéressent, d'un côté les rhodopsines et de l'autre les iodopsines. Alors les premières, les rhodopsines, elles ont comme chromophore associé ce qu'on appelle le rétinal. C'est en fait une forme de la vitamine A qui a l'apparence de cristaux orangés et absorbe naturellement plutôt les longueurs d'onde vertes et bleues du spectre visible, c'est-à-dire autour de 500 nanomètres, si les chiffres vous intéressent. On retrouve ces rhodopsines dans un type particulier de photorécepteurs qu'on appelle les bâtonnets. Ces bâtonnets, ils sont plus sensibles, mais aussi plus lents que les autres types de photorécepteurs qu'on appelle les cônes qui utilisent les autres types d'opsines, les iodopsines. Les bâtonnets, ils sont plus sensibles, ça veut dire qu'ils ont besoin de recevoir un petit peu moins de photons pour s'activer, et ils seront plus utiles donc pour la vision dans la pénombre et la vision nocturne. Autrement dit, il leur suffit de recevoir quelques photons par seconde pour s'activer, et plutôt donc des photons de longueur d'onde du côté bleu-vert du spectre de la lumière visible. En étant le seul type de photorécepteur vraiment fonctionnel quand la lumière est faible, ils permettent pas la vision colorée, la nuit, tous les chats sont gris. Par contre, quand la lumière devient plus forte et qu'ils sont soumis à une intensité de l'ordre de 500 photons par seconde, ce qui reste relativement faible pour un humain, à ce moment-là, ces bâtonnets sont saturés. Tous les photons les activent et du coup, on ne peut plus mesurer l'intensité, elle est à son maximum. Et si on n'avait pas d'autres types de photorécepteurs, si on n'avait pas de cônes, alors le jour ne serait pour nous qu'une grande surface blanche et aveuglante. C'est donc les cônes, qui sont dotés des iodopsines, qui prennent le relais dans les fortes lumières et qui permettent la vision diurne. L'autre intérêt de ces cônes et de leur iodopsine, c'est aussi qu'il en existe de nombreuses variantes. On peut donc les combiner et on débloque comme ça la distinction des couleurs. Oui, le jour, les lions sont fauves, alors que Chipolata, la chatte de mes voisins, est blanche à taches rousses, ce qui permet de ne pas confondre les deux. Les humains possèdent donc, comme on vient de le dire, des bâtonnets qui les aident surtout à distinguer les formes dans la pénombre, et pour la majorité des humains, ils possèdent aussi trois types de cônes. On dit qu'ils sont trichromates. Mais ça, c'est pas la règle pour tous les animaux. Les paresseux sont monochromates parce qu'ils ne possèdent que des bâtonnets. Les pieuvres, les requins, les baleines sont monochromates parce qu'elles ne possèdent qu'un seul type de cône et pas de bâtonnets du tout. Les chiens, les chevaux, eux, ils ont deux types de cônes. Ils sont dichromates, probablement comme l'étaient aussi les premiers primates, nos ancêtres. Les insectes, eux, possèdent trois types de cônes comme nous les humains et sont aussi trichromates, mais ils utilisent des longueurs d'onde différentes des humains. Et les oiseaux, eux, ils possèdent quatre types de cônes, et ils sont donc tétrachromates. Et les mantes de mer, elles possèdent 12 types de cônes. Mais est-ce que pour autant on peut les qualifier de dodécachromates ? C'est pas si simple. Coincés dans notre représentation purement humaine et subjective de notre environnement, nous avons tendance à surestimer les capacités visuelles des animaux et à sous-estimer leurs autres sens d'ailleurs, jusqu'à avoir une idée au moins biaisée, voire complètement fausse, de ce qu'on appelle leur Umwelt, leur environnement perceptif propre. L'Umwelt, c'est un mot allemand qui désigne l'environnement, plus précisément en biologie, l'environnement sensoriel. Le monde propre de chaque espèce, de chaque individu, ça a été théorisé par Jakob von Uexküll, un biologiste allemand. Selon cette théorie, tous les organismes, bien que partageant le même environnement physique, ils font l'expérience de différents mondes qui leur sont propres. Ainsi, l'humain qui use principalement de la vision pour analyser le monde qui l'entoure a une perception et vit dans un monde très différent de celui de la chauve-souris qui utilise surtout l'écholocation ou de celui des oiseaux qui sont sensibles aux champs magnétiques terrestres pour s'orienter. Si les animaux dotés de la vision peuvent parfois distinguer différentes longueurs d'onde comme nous, ça ne signifie pas pour autant qu'on peut parler de couleurs perçues dans le même sens que celles que les humains perçoivent. Maintenant que nous abordons la perception biologique de la lumière, je ne vais donc plus mentionner la couleur comme une éventuelle teinte qu'on associerait à une longueur d'onde ou à un bouquet de longueur d'onde, mais je vais bien parler uniquement du qual, de la perception consciente et subjective qu'en fait un être humain. Ces qualia, ces perceptions subjectives, que sont la couleur, par exemple, composent la conscience phénoménale des individus. C'est le contenu subjectif de l'expérience, comme les couleurs telles que nous en avons conscience, mais aussi, par exemple, comme la sensation de faim, de douleur, de fatigue. C'est aussi le ressenti des humeurs, les sentiments, les émotions. Ces qualia sont les phénomènes ineffables qui semblent n'exister qu'au sein de notre conscience et absolument impossibles à décrire à ceux qui ne les vivraient pas. Le lien entre les propriétés physiques qui provoquent les qualia et les qualia eux-mêmes est cependant très difficile à établir. Une longueur d'onde, c'est bien une propriété objective qu'on peut supposer exister même s'il n'y a personne pour la percevoir. Encore que même cette question-là, on peut se la reposer en fait. Tandis que le qual subjectif n'existe que dans la conscience qui en fait l'expérience. Thomas Nagel, dans un célèbre article qui s'intitule « Quel effet cela fait-il d'être une chauve-souris ?», illustre très bien cet écart. Si on peut expliquer scientifiquement le fonctionnement de l'écholocation des chauves-souris, c'est impossible d'avoir la moindre idée de l'effet que cela fait de percevoir le monde par écholocation. C'est le moment de vous raconter une expérience de pensée assez célèbre qu'on appelle l'argument de la connaissance proposé par Frank Jackson qui aborde cette question liée au qualia. Dans cette expérience de pensée, Mary est une brillante scientifique, mais elle a vécu toute sa vie dans une chambre en noir et blanc et elle n'a pu étudier le monde qu'à travers une télévision qui est aussi en noir et blanc. Elle n'a jamais vu de teinte. Pourtant, elle se spécialise dans la neurophysiologie de la vision. Elle apprend tout ce qu'il faut savoir sur ce qui se passe lorsqu'on voit des teintes, comme celle des tomates mûres ou du ciel. Et elle sait quand est-ce qu'on va utiliser des termes comme rouge ou bleu. Mais que va-t-il se passer quand Mary sortira de sa chambre ? Est-ce qu'elle va apprendre quelque chose de nouveau? Frank Jackson propose une réponse. Ça nous paraît évident qu'elle va découvrir une nouvelle expérience visuelle du monde, qu'elle fera l'expérience de nouveaux qualia, qu'elle apprendra donc quelque chose qu'elle ne savait pas sur le monde alors qu'elle possédait déjà auparavant absolument toutes les connaissances, toutes les informations physiques sur les phénomènes. Donc, selon le philosophe qui écrit cette expérience de pensée à l'époque, ce qu'on appelle le physicalisme est faux. Ça prouverait qu'il y a bien une dualité entre le monde physique et la conscience, parce que la conscience n'est pas réductible à des processus physiques et neurophysiologiques. Jackson soutenait aussi l'idée que les qualia et la conscience sont ce qu'on appelle un épiphénomène. C'est-à-dire qu'ils auraient une existence qui n'est pas physique, et que même si leur existence est causée par des phénomènes physiques, eux-mêmes ne causent aucun changement dans le monde physique. C'est à sens unique. Il est depuis revenu sur cette idée, il a écrit en 2003, je cite... J'ai capitulé et je me dis maintenant que le problème intéressant, c'est plutôt de savoir comment les arguments intuitifs à l'encontre du physicalisme, ces arguments qui semblent si puissants, nous poussent à nous tromper. Parenthèse, avec le développement en ce moment de l'intelligence artificielle et la grande influence des acteurs des technologies numériques qui sont d'ardents défenseurs d'une forme de physicalisme qu'on appelle le connexionnisme, pour qui tout est physique et mathématiquement simulable, y compris la conscience, via des réseaux de neurones suffisamment complexes, moi je demande, est-ce qu'il ne serait pas sain, ou au moins intéressant, de repenser une forme de dualisme, ne serait-ce que pour redonner un peu de poésie au monde moderne. Du reste, les processus qui mènent à l'émergence de la conscience restent de toute façon toujours un mystère. Et pour revenir au sujet qui nous occupe, les qualia colorés restent physiquement complètement inexplicables, bien que, comme on va le voir maintenant, la manière dont les signaux lumineux sont captés par les photorécepteurs de la rétine puis sont traités par les neurones est aujourd'hui bien connue. Chez l'être humain, la vision dans l'obscurité se fait principalement grâce aux bâtonnets, comme on l'a dit un peu plus tôt. Elle ne permet donc pas de distinguer efficacement les teintes. C'est dans ce cas seulement l'intensité de la lumière qui est traitée par le cerveau. Le cerveau traduit alors cette intensité par une échelle visuelle qui commence par le noir quand aucun photorécepteur n'est actif. La couleur spécifique et théorique qui résulterait de l'activation uniquement des bâtonnets est en fait par contre complètement indéfinissable, puisque quand l'intensité de la lumière augmente, la couleur perçue dépend aussi du signal qui vient des cônes qui s'activent aussi. Il faudrait, pour définir la couleur qu'on perçoit uniquement grâce aux bâtonnets, pouvoir désactiver tous les cônes de la rétine, ou demander à quelqu'un dont tous les cônes seraient défectueux ou inexistants de la décrire. Quoi qu'il en soit, aucune information de teinte ne peut être tirée de l'activation uniquement des bâtonnets, et on peut considérer qu'ils participent plutôt à l'évaluation de la luminosité comme une image en noir et blanc, ou plutôt en noir et gris, puisque les bâtonnets ne sont performants que dans les lumières faibles et ne participent pas aux intensités qu'on qualifierait de blanc. C'est quand l'intensité lumineuse augmente qu'on commence à discerner les teintes, grâce à l'activation des trois types de cônes. De la même manière que les bâtonnets, en comptant les photons, chaque cône génère un signal d'intensité et on obtient donc trois intensités pour trois gammes de couleurs des trois types de cônes. Pour être un peu plus précis, on a un premier signal qui donne la quantité de photons autour de 437 nanomètres, ce qu'on va appeler le bleu. Un deuxième signal correspond à une gamme autour de 533 nanomètres, qu'on peut appeler vert. Et le dernier signal correspond à une gamme centrée autour de 564 nanomètres, qu'on pourrait appeler rouge. Le cerveau effectue alors une comparaison de ces trois signaux rouge-vert-bleu pour en déduire une teinte qui vient de ce mélange. Toutes les teintes qui composent l'arc-en-ciel sont en fait le résultat des mélanges des différentes proportions entre ces trois uniques signaux. Ce processus, c'est ce qu'on appelle la trichromie. Un système de trichromie permet de reproduire toutes les couleurs visibles à partir de seulement trois teintes de base, qu'on appelle dans ce cas les couleurs primaires. La lumière naturelle est bien composée d'une gamme continue de photons de toutes les longueurs d'onde possibles, d'une infinité de longueurs d'onde possibles, mais les cônes ne permettent pas de mesurer ces longueurs d'onde précisément. Je vais prendre un exemple. Regardez une belle orange bien mûre. Ou prenez une clémentine ou une carotte si vous voulez, ou si vous en avez pas, vous pouvez simplement imaginer la couleur. Vous l'avez en tête ? Mine de rien, je viens de vous faire fabriquer un koal, j'ai placé une couleur dans votre conscience qui n'est le résultat d'aucun signal lumineux physique. Prenez 5 minutes pour réfléchir à l'ontologie de ce koal coloré. Quelle est l'existence physique ? Quelle est la chaîne de causalité qui a créé cette couleur ? Je vous laisse y réfléchir 30 secondes. Analysons toutefois cette couleur que vous voyez. Cet orange vif est principalement dû au carotène qui est contenu dans la peau de l'orange ou de la carotte, qui réfléchit surtout les photons dont la longueur d'onde se situe entre 550 et 600 nanomètres et absorbe la majorité des autres photons. Ces photons, quand ils parviennent à nos yeux, ils vont activer essentiellement deux types de cônes, plutôt les rouges et un petit peu les verts, et pas du tout les bleus. Et c'est ainsi que va se former le koal orange dans la conscience. Si maintenant vous regardez une photo de cet orange ou de cette carotte sur un écran numérique reproduit l'image au moyen d'une grille de pixels, c'est-à-dire des minuscules points qui génèrent chacun une couleur précise à partir de trois primaires, c'est un système de trichromie aussi. Si votre écran est correctement fabriqué, ces trois primaires sont des lumières rouges, vertes et bleues, qui sont respectivement composés de l'équivalent de photons de longueur d'onde de 612 nanomètres, 547 et 464,5 pour être précis nanomètres. C'est une convention, c'est une norme qu'on appelle sRGB, que sont censés respecter la majorité des écrans. En tout cas, dans chaque pixel, le mélange, l'addition de chacune de ces trois lumières primaires définit la couleur du pixel par trichromie. Notre orange ou notre carotte qui sont donc affichés sur l'écran sont représentés par des pixels qui génèrent un mélange en proportion à peu près égale de lumière rouge et de lumière verte de 612 et 547 nanomètres sans aucune lumière bleue. C'est un mélange lumineux très différent de celui de la véritable orange ou de la véritable carotte qui contenait tout le spectre visible avec une majorité de photons autour de 575 nanomètres, donc une fréquence qui n'existe pas sur les écrans numériques. Et pourtant, on voit exactement la même chose, on voit le même orange, on est incapable de distinguer l'orange de la vraie orange et l'orange de l'orange sur l'écran. J'aurais dû utiliser plutôt l'exemple avec une carotte, ça aurait fait moins de répétitions, je recommence. On est incapable de distinguer la différence entre l'orange de la vraie carotte et l'orange de la carotte sur l'écran numérique, qui sont pourtant, physiquement, composés de photons absolument différents. Les photons naturels, ceux de la carotte naturelle de 575 nanomètres, peuvent activer aussi bien les cônes rouges que verts, alors que dans le mélange artificiel, les photons de 612 nanomètres activent surtout les cônes rouges, et les photons de 547 nanomètres activent surtout les cônes verts. Mais le résultat est le même en fait. Ce sont les mêmes cônes qui sont activés dans les mêmes proportions. Du coup, le signal nerveux qui en résulte est parfaitement identique. Notre nombre limité de types de cônes réduit grandement notre perception des teintes et la quantité des couleurs que nous pouvons voir. Nous sommes incapables d'analyser le spectre lumineux en détail, et il y a en réalité une infinité de combinaisons de longueurs d'onde possibles pour générer chaque couleur que nous voyons. On peut les générer d'une infinité de manières différentes, chacune des couleurs que nous voyons. Toutes ces lumières qu'on perçoit de manière identique, alors qu'elles sont en réalité composées d'un spectre différent, c'est ce qu'on appelle des couleurs métamères, ou bien homochromes. Nous venons de découvrir que notre œil, fruit de plusieurs centaines de millions d'années d'évolution, ne nous permet en réalité de percevoir qu'une fraction infime du monde qui nous entoure. L'immense diversité des lumières de notre monde se réduit en fait à une petite gamme de couleurs très limitée par le fonctionnement de notre œil avec trois types de cônes et un type de bâtonnet. Et c'est à partir déjà de ces données très limitées que se forme la couleur dans notre conscience. La semaine prochaine, nous découvrirons que dans le monde animal, la perception des couleurs est aussi variée que les espèces et que la plupart des animaux ne voient pas du tout les mêmes couleurs que nous. Nous découvrirons comment certains humains peuvent voir des couleurs que d'autres ne voient pas. Nous découvrirons comment le peintre Monet s'est mis à voir les ultraviolets à la fin de sa vie et à les peindre sur ses nymphéas. Nous verrons aussi que le cerveau interprète les signaux qui viennent des neurones et brise complètement le lien entre les phénomènes physiques et la conscience des couleurs qui est donc totalement subjective. Malgré tout, l'espèce humaine a développé un usage de la couleur qui lui est propre comme moyen de communication de choses diverses et variées. C'est ce que nous explorerons dans la suite du podcast. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'oubliez pas que vous pouvez visiter le site internet lafourmi.media pour lire les articles associés aux épisodes et aller plus en profondeur dans les sujets qui vous intéressent et aussi accéder aux sources qui ont permis cet immense travail d'écriture. Comme je viens de le dire, c'est effectivement un gros travail que je fais en complète indépendance, sans sponsoring et sans pub, uniquement grâce à vos dons et vos soutiens réguliers, pour lesquels je vous suis infiniment reconnaissant. N'hésitez pas, si vous le pouvez, donc à faire un petit don sur lafourmi.media. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout, à la semaine prochaine, toujours en couleur. C'était La fourmi dans la coquille, le podcast hélicoïdal par Nicolas Dufresne. Merci à Anna Alcé pour son travail de relecture et à mon ami Wassaru pour sa musique. Ce podcast est entièrement réalisé avec des logiciels libres et open source. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos réactions à contact@lafourmi.media. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez soutenir le podcast sur lafourmi.media où vous pourrez faire un don et nous rejoindre sur les réseaux sociaux ou vous abonner à la lettre d'information du podcast.
The more I hear about this, I mean, it just gets crazier and crazier.